Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Plaisir de parler à José Bové. José Bové qui est devenu très célèbre, très vite, qui est agriculteur, qui va nous expliquer qui il est et le but de son action. José Bové, bienvenue sur les ondes de Radio SBS.
Bonjour.
Alors dites-nous un petit peu qui vous êtes.
Bien écoutez, je suis un paysan, j'habite avec ma famille dans un petit hameau de 5 maisons qui s'appelle Montredon. Et j'élève des brebis laitières avec 4 autres associés. Nous avons 350 brebis pour le lait et 220 brebis pour la viande. Et nous travaillons sur un plateau sec à 850 mètres d'altitude.
Donc je suppose un paysage absolument merveilleux et un mode de vie qui est centenaire.
Ah, c'est oui, l'élevage des brebis est ici, existe sur le plateau depuis... au moins 2000 ans, puisque les traces de bergers sont ici de tout temps.
Alors, comment se fait-il que quelqu'un qui est un troupeau de brebis, qui a décidé d'être éleveur de brebis, qui habite dans un coin qui est considéré comme très, très rural et très perdu, décide un beau jour qu'il en a assez de cette colonisation de la gastronomie?
Alors, écoutez, c'est simple. Ici, nous faisons un fromage qui s'appelle le Roquefort et qui est la plus vieille appellation d'origine contrôlée de France. C'est-à-dire que c'est le fromage qui est reconnu comme étant tellement spécifique qu'il y a une loi est parue en 1925 pour déterminer la façon dont on le fabriquait. À partir de là, moi, je représente les producteurs de lait de brebis à l'intérieur de cette appellation d'origine contrôlée. Et au mois de juillet de cette année, brusquement, sans qu'on soit averti, le fromage de Roquefort a été pris en otage par l'Organisation mondiale du commerce pour servir d'otage justement par rapport aux États-Unis qui essayent d'imposer le bœuf aux hormones sur le territoire européen. Et du jour au lendemain, nous n'avons plus pu vendre un kilo de ce fromage aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là effectivement que tout le monde ici a compris qu'il pouvait être un jour ou l'autre victime d'un monde auquel il avait l'impression d'avoir échappé jusqu'à présent. Et c'est pourquoi la révolte contre l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi contre une certaine forme de nourriture qu'on voulait nous imposer, s'est mise en place et que la révolte a démarré.
Ce qui est merveilleux, c'est quand même que vous avez créé une formule nouvelle. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un a la chance d'enrichir la langue française, mais vous avez créé le concept de la malbouffe.
Oui, alors c'est un concept qui est plus large justement que simplement une question de sécurité alimentaire. C'est-à-dire que ce qu'on a contesté et ce qu'on conteste toujours, c'est le fait à la fois qu'on essaye d'imposer aux gens une forme d'alimentation qui puisse être contraire à la façon dont ils conçoivent la sécurité, c'est-à-dire que Il n'est pas normal qu'on impose à des gens ou de la viande aux hormones ou par exemple des organismes génétiquement modifiés, mais en même temps il n'est pas normal que certaines formes d'entreprise, cette forme de gastronomie entre guillemets, essayent d'imposer une nourriture standardisée à travers le monde. Et je crois qu'aujourd'hui cette alimentation standardisée que représente McDo, liée à une agriculture industrielle qui fait perdre à la fois le goût des aliments et la diversité des aliments, tout cela entraîne des risques supplémentaires encore en termes de sécurité. Et c'est pourquoi, effectivement, le terme de malbouffe représente tous ces aspects, mais aussi des aspects culturels, parce que, évidemment, l'alimentation a énormément un fondement culturel.
Oui, là, je crois que quand vous exprimez, et ce que d'ailleurs les réalisateurs de films ont dit la même chose au sujet de leurs produits, il ne s'agit pas d'un produit commercial, il s'agit de la spécificité culturelle d'un pays ou d'une culture.
Tout à fait. Et je crois que ce qu'il faut défendre à travers l'alimentation, c'est justement le fait que ça soit varié, multiple, et qu'à travers le monde entier, eh bien, il existe des dizaines, des centaines de cultures différentes, et que l'art du manger est un des arts fondamentaux, puisque même dans des cultures sans écriture de tradition orale, eh bien, il y a des merveilleuses traditions culinaires, et donc on pourrait presque dire que la tradition culinaire est la première culture d'un pays ou d'une population.
On vous appelle le Robin des Bois.
Oui, j'ai entendu ça aussi.
C'est beau, c'est très beau.
C'est pas dans notre culture chez nous, mais bon, si ça veut dire qu'on se révolte contre un ordre établi injuste et qu'on risque de gagner à la fin, ben ça me va bien.
Ça vous va très bien. Alors justement, on parle de spécificité culturelle, on s'attaque à un organisme qui veut standardiser, banaliser et baliser. Et les pouvoirs publics, que font-ils ?
Mais écoutez, comme bien malheureusement souvent dans ce genre de situation, les pouvoirs publics souvent accompagnent l'ordre établi et n'attendent pour se prononcer que de savoir comment le rapport de force va se construire. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics français sont très malheureusement, eux, dans une situation d'attentisme, et c'est pour ça que nous continuons à nous mobiliser, à pousser pour que le gouvernement français, mais aussi la Commission européenne, s'engagent de manière claire et résolue dans le sens de nos propositions.
Une chose, votre action d'éclat qui peut paraître très spectaculaire, quand même c'était un risque. C'était un risque pour vous, pour votre famille. S'il n'y avait pas eu une telle réaction et un tel sentiment de sympathie pour la cause que vous défendiez, vous risquiez d'avoir des problèmes, d'avoir vraiment de véritables problèmes juridiques. C'était un risque que vous avez pris.
Bien sûr qu'on a pris un risque, mais quand on se lance dans une action syndical qu'on croit juste, eh bien, il faut savoir prendre des risques. Nous les avons pris déjà l'année dernière en détruisant des stocks de semences de maïs transgénique. Eh bien, cette fois-ci, face à l'agression dont on s'est senti victime, face au fait qu'on voulait nous imposer une forme d'alimentation qu'on refusait, eh bien, il nous a paru fondamental de prendre un risque à la hauteur de l'enjeu. Et c'est pourquoi le fait d'avoir été en prison, pour moi, je ne l'ai pas ressenti comme une humiliation, mais comme étant effectivement peut-être le passage obligé pour avoir dénoncé quelque chose de parfaitement inacceptable.
Avez-vous été surpris du soutien que vous avez suscité ? Des réactions de sympathie, mais aussi un véritable réveil qui s'est effectué ?
Effectivement, quand on est dans l'action, on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit un tel bouleversement et que l'opinion publique prenne aussi vite position. Quand on y regarde après, effectivement, on s'aperçoit que toutes les circonstances étaient réunies pour que ça soit comme ceci, puisque depuis déjà 2-3 ans, au niveau des problèmes de l'alimentation en Europe, les gens en avaient ras-le-bol. Ça avait été d'abord le problème du bœuf du bœuf britannique, de la vache folle, ensuite ça avait été le poulet à
dioxine.
La dioxine, et puis ensuite les bouts d'épuration, et chaque fois des nouveaux scandales sur l'alimentation. Je crois que la population était tout à fait prête à se révolter contre cette situation.
Mais il a fallu quand même un déclencheur, et ça a été vous.
Voilà, et bien en général c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est qu'il y a un terrain qui est prêt, les gens en ont ras-le-bol, mais ils ne savent pas comment ça peut se concrétiser. Et je crois que les gens se sont sentis solidaires et ont manifesté leur soutien pour dire qu'ils voulaient que les choses changent, que les questions de l'alimentation devaient devenir des questions centrales de la vie politique et que le fait de manger, eh bien, c'était pas simplement quelque chose pour se maintenir en vie, mais c'était beaucoup plus que cela. C'était un acte culturel, un acte social.
Et maintenant que vous avez prouvé le point et que l'opinion publique vous suit, que font les politiques ?
Eh bien, les politiques, comme je vous l'ai dit, sont toujours en attente. Alors, ils ont tous dit qu'on avait raison. Ils ont tous manifesté leur volonté que je sorte de prison. Maintenant, j'attends de leur part qu'ils fassent des propositions très concrètes et qu'au cours des rencontres de Seattle, à la fin du mois, eh bien, ils soient en capacité de reprendre nos propositions. Nous, nous serons de toute façon présents pour faire entendre notre voix et pour être vigilants au cas où les politiques manquent à leur parole.
Alors justement, vous préparez cette rencontre de Seattle et vous la préparez à votre façon.
C'est évident, pour nous, la chose la plus importante qui va se passer à Seattle, c'est le contre-sommet, c'est-à-dire la rencontre au niveau international de tous les mouvements, aussi bien paysans, consommateurs, syndicats ouvriers, écologistes et qui sait encore. Ça va être la première fois que l'ensemble de ces mouvements vont se réunir pour essayer de travailler ensemble à une véritable charte internationale qui permette de donner une nouvelle orientation aux relations internationales. Parce que, effectivement, l'objectif de l'Organisation mondiale du commerce, c'est de tout transformer en marchandises. Eh bien, l'objectif du contre-sommet, c'est d'expliquer et c'est de démontrer pourquoi tout ne peut pas être une marchandise et comment on doit permettre à chaque population de choisir son développement.
Et alors nous sommes dans une situation maintenant où les médias vous regardent et vous donnent d'ailleurs pas mal de publicité. Ils vous ont quand même soutenu.
Je crois qu'il y a eu... ce que j'ai toujours dit, c'est que les médias, les journaux, la presse télévisée, la radio sont le reflet de leurs lecteurs, de leurs auditeurs, de leurs téléspectateurs. Et donc, à partir du moment où les gens, par rapport à l'alimentation, se sont sentis révoltés, qui n'ont pas compris la répression dont on a été victime, je crois que là, ça a été la même chose pour tous les journalistes, qui sont aussi des citoyens, et que quand une action est comprise par la population, elle est comprise aussi par les journalistes, et je crois que j'ai compris en discutant avec nombre de journalistes qu'ils pouvaient aussi se sentir concernés parce qu'ils vivaient la même chose au quotidien et que les angoisses qu'un paysan peut avoir, eh bien un consommateur là et un journaliste c'est aussi un consommateur.
Et puis finalement, les gens dans les villes sont encore beaucoup plus vulnérables parce qu'ils n'ont absolument aucun contrôle de la source des aliments et des denrées qu'ils achètent.
Complètement, et c'est vrai que si nous avons la chance d'avoir un jardin potager pour faire nos légumes et de savoir exactement comment nos animaux sont élevés, eh bien malheureusement, quelqu'un qui habite en ville est obligé de faire confiance au mieux à son émissier, au pire à la grande surface dans laquelle il va acheter sa nourriture dans des sacs emballés et sur lesquels strictement rien n'est marqué. Et si en plus cette personne a un revenu modeste, a très peu d'argent, eh bien elle est obligée d'aller acheter dans les magasins à bas prix. Et dans ces magasins à bas prix, souvent la qualité est inférieure aux normes voulues.
Donc finalement, le combat que vous menez, c'est pour un accès plus juste à des denrées de qualité et des denrées qui ne sont pas dangereuses.
C'est à la fois un combat pour que tout le monde ait accès à la même qualité, c'est-à-dire la plus haute possible, mais en même temps pour qu'il y ait la mise en place d'une agriculture qui soit une agriculture paysanne face à une agriculture industrielle, une agriculture qui protège à la fois l'environnement, mais qui crée aussi beaucoup d'emplois, parce qu'aujourd'hui, on peut créer de l'emploi dans l'agriculture, on peut faire vivre de nombreuses personnes, et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. L'agriculture ne doit pas être simplement une industrie productrice de matières premières, mais elle doit être quelque chose qui soit à la fois productrice de produits de bonne qualité, productrice de paysages, protectrice de l'environnement, parce que malheureusement l'agriculture industrielle détruit souvent l'environnement. Et je pense que c'est tout ça ensemble, notre projet. Et c'est aussi l'idée qu'il n'y a pas certains pays qui peuvent nourrir toute la planète pendant que les autres sont obligés d'acheter pour survivre. Ça veut dire que nous pensons qu'aujourd'hui, la souveraineté alimentaire doit être au centre du projet du 21e siècle et que chaque peuple a le droit de pouvoir se nourrir sans qu'on lui impose des aliments venant d'autres pays. Il n'y a pas raison que les États-Unis et l'Europe imposent au reste du monde leur façon de manger.
Celle-là, on va vers donc un nouveau contrat social ou international et une plus grande justice. Ça, c'est vraiment le but.
Tout à fait. Le but, c'est la remise en cause d'une certaine forme de rapport de force au niveau international où tout est marchandise et où les plus forts sont en train d'écraser les plus faibles. Les plus faibles aujourd'hui, eh bien, ce sont les pays du Sud à qui on impose un mode de développement, des achats, des modèles culturels qui ne sont pas les leurs. Et je crois que ça, c'est le premier combat. Le deuxième, c'est la protection et l'avenir de la planète pour les générations futures. Et par rapport à cela, le combat aussi, c'est celui du respect de la biodiversité, le refus du brevetage du vivant. Mais c'est aussi un combat social où les hommes ne sont pas considérés simplement comme des charges qu'on peut licencier quand l'entreprise fait encore plus de bénéfices. Donc c'est effectivement une autre façon de concevoir les relations sociales.
Vous devez avoir beaucoup de soutien parmi les Verts, parmi les écologistes, parmi les penseurs qui essayent de trouver une solution justement à ce nouveau contrat social, essayent de repenser le contrat social, les liens entre l'individu et la société.
Oui, bah écoutez, des soutiens, il y en a de plus en plus. Paradoxalement, il y a effectivement le soutien des gens que vous signalez, mais il y a aussi des soutiens de gens en France, par exemple, qui veulent se replier sur leurs frontières. Donc nous leur expliquons, nous, que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller, que c'est pas ça la solution. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une véritable réflexion nouvelle. Cette réflexion traverse aussi toutes les autres professions. Il y a, par exemple, les médecins qui réfléchissent aussi actuellement en France contre la marchandisation de la santé. Et puis les cinéastes dont on a parlé, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont dans cette réflexion et je crois que c'est un débat qui va traverser toute la société.
C'est un défi citoyen finalement que vous avez enclenché contre tout ce qui est mondialisé, globalisé, internationalisé.
Tout à fait, je crois qu'effectivement c'est un défi citoyen. D'ailleurs le mouvement dans lequel on travaille s'appelle le collectif pour le contrôle citoyen de l'OMC, et ça veut dire très clairement aujourd'hui qu'on pense que le politique et le citoyen doit reprendre le pas sur le marché et que c'est pas le marché qui doit décider pour toutes nos activités. Je crois que c'est ça le message central qu'on veut donner.
Et l'ironie est naturellement que maintenant que vous êtes engagé dans l'action politique, vous avez probablement beaucoup moins de temps à la ferme.
Ben écoutez, là pour nous, comme je suis en élevage de brebis, en brebis laitière, le paradoxe veut que l'automne et l'hiver soient la période où on soit la plus tranquille, puisqu'on n'a pas, on a la chance de ne pas être obligé de traire les brebis à cette époque-ci. Donc je suis plutôt facilement disponible actuellement pour faire ce travail, mais dès le 15 janvier, je serai à nouveau dans ma bergerie pour l'agnelage et pour faire naître les agneaux.
José Bové, quel avenir voyez-vous à votre mouvement d'une part et à ce nouvel espoir qu'il a suscité ?
Pardon ?
Quel avenir voyez-vous aux espoirs que vous donnez par votre action ?
Oh ben écoutez, je pense que on va voir déjà comment ça va se passer d'ici 15 jours maintenant à Seattle. Je pense que la prise de conscience s'est faite. Et que, bon, la bataille que nous avons engagée sur le bœuf aux hormones, je pense, sera victorieuse. Je pense que sur les OGM, on peut aussi penser que nous allons remporter une victoire, parce que de plus en plus de pays refusent la privatisation du vivant, refusent les OGM. Donc les multinationales sont en train de reculer. Donc je crois que sur l'OMC, eh bien, on a aussi des chances de pouvoir marquer un certain nombre de points et De toute façon, le combat ne va pas s'arrêter début décembre, mais il va continuer parce que cette mobilisation qui s'amplifie au niveau international aura de multiples formes.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Grande-Bretagne, il y a eu un cas contre McDonald's qui a duré 6 ans, qui est considéré comme le cas juridique le plus long, et que finalement la Haute Cour a dû trancher. C'était pas une victoire totale pour les deux qui ont traîné en justice McDonald's, mais c'est une victoire morale et un incroyable soutien populaire aussi. Donc il semble effectivement qu'il y ait des réveils et que l'action de certains, cette prise de position morale, prise de position de valeur, commence à faire à avoir un effet particulièrement généralisé.
Oui, mais c'est vrai, c'est souvent comme ça que les choses se passent, et que les prises de conscience sont, les actions sont menées par des petits nombres de personnes dans un premier temps, et puis après le mouvement prend de l'ampleur, et l'ensemble des gens s'y associent. C'est comme ça que le monde marche, donc il ne faut pas s'en inquiéter. Aujourd'hui, le mouvement auquel on participe depuis des années déjà était en train de se construire, les idées avaient germé. Bon, il y a eu une étincelle, c'est nous qui avons mis l'allumette pour faire l'étincelle, et bien tant mieux. Aujourd'hui, ce mouvement maintenant est connu et reconnu, jusqu'au directeur de l'Organisation mondiale du commerce qui nous reconnaît. Donc je pense que c'est quelque chose de positif et qui ne va pas s'arrêter.
Ce qui était intéressant, il y avait un des commentaires de la réalisatrice qui avait fait le documentaire sur ce procès juridique et ce procès qui a fait jurisprudence. Elle a dit, contre les principes, contre des principes et les valeurs sûres, les multinationales ne pouvaient rien. Il y avait ces deux personnes qui étaient d'origine modeste, mais qui n'allaient absolument pas abandonner, qui n'allaient pas céder. Et c'est véritablement la multinationale qui a plié genou. C'est merveilleux, ça.
Tout à fait. Mais je crois que c'est effectivement souvent comme ça que ça se passe. À partir du moment où on affirme des principes, souvent les principes de vie sont plus forts que la loi du marché. Et souvent, les multinationales sont obligées de lâcher, parce que ce sont souvent des espèces de colosses au pied d'argile dont uniquement le marché est la base, mais qui n'ont strictement aucune légitimité ni morale ni humaine. Et c'est vrai que quand la société s'oppose à eux, ils sont obligés de lâcher parce que leur situation est absolument impossible. Et on l'a vu nous aussi en France, mais avec des grandes firmes comme Monsanto ou Novartis, qui sont obligés de lâcher alors qu'ils pourraient nous écraser avec leur argent.
Mais ce qui est intéressant, c'est que la majorité des gens sont résignés parce qu'ils ne le savent pas. Et à partir d'une action comme la vôtre et comme celle du McLibel case, ils se rendent compte qu'ils ont un pouvoir. Il reste quand même un pouvoir.
Mais je crois que c'est effectivement, un philosophe français a dit ça il y a plusieurs centaines d'années, les gens sont dans une situation de servitude volontaire. Et les jours où les gens prennent conscience qu'on peut sortir de la situation de l'esclavage, tout est possible.
C'est tout à fait vrai. José Bové, écoutez, je vous remercie pour cette interview.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.